retirer mon masque, s'il vous plaît.
Bonjour frères et sœurs. Tikva, ça vous dit quelque chose? Tikva. T-I-K-V-A, accent circonflexe, H. Tikva. C'est un mot hébreu. Hein? Et il m'a surpris parce que ce mot, j'ai découvert, je savais, mais j'ai découvert quelque chose dont je veux vous faire part qui me fait bondir de joie. Hein? Voilà, Tikva, un mot qui est utilisé encore aujourd'hui. Il y a même un village qui s'appelle Petatikva en Israël aujourd'hui. Hein? Et il est toujours traduit. Enfin, quand je dis toujours, oui, il est toujours traduit par espérance. C'est l'espérance. Sauf à un endroit. Et c'est ça qui m'a vraiment interloqué. N'est-ce pas ? Et je voudrais que vous vous mettiez à la place de cette personne qui a compris ce qu'était la tikva, l'espérance, à un point que... Enfin, je ne sais pas si on doit faire un effort pour avoir cette espérance, mais elle se trouvait, cette personne, dans une situation terrible. Donc, ce n'est pas TikTok, hein, ni Tic-Tac, hein, c'est Tikva. Hein. J'aimerais bien que vous répétiez après moi. Tikva. Tikva. Merci. Hein. C'est en deux mots, c'est Tav, Kaf. Bête et hé. Hein, ça fait avec les voyelles que je ne vous ai pas dit, qui, ça fait tikva. Voilà. Et c'est parce que, en fait, on trouve ça 34 fois dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, hein, forcément, pas dans le Nouveau. Et ça a toujours été traduit par espoir, espérance, etc. Surtout pour Job. Dans le livre de Job, c'est à peu près une vingtaine de fois où le terme tikva est utilisé pour le livre de Job. Le reste du temps, c'est ailleurs, dans les psaumes, etc. Mais bien, bien souvent dans le livre de Job. Et dans le livre de Job, ce sont souvent les amis de Job qui lui disent « Mais... Dieu n'est-il pas ton espérance ?» Et Job de répondre, à un moment donné, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier jour. » Alors, vous avez d'un côté des gens qui sont religieux, très, très bien, et qui disent, « Mais enfin, Dieu, c'est ton espérance. » Le pauvre Job, qui est pauvre comme Job, hein, et qui se retrouve, lui, dans une situation où il va perdre son espérance, et où finalement il va réussir à garder son espérance, parce qu'il ne peut pas, renier le fait que Dieu soit bon, malgré la situation dans laquelle il se trouve, et il criera bien sûr son espérance à un moment donné. Hein. Mais ce n'est pas de Job dont je vais vous parler de quelqu'un d'autre, et qui aussi a espéré. Mais... Je le dis pour moi-même, je le dis pour vous aussi, ce qui est important, c'est de s'apercevoir que ce monde va mourir, que ce monde va être détruit, que Dieu va détruire le monde, à un moment donné. C'est un message qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, passe un peu moins, parce qu'on préfère toujours parler de croissance, de développement personnel, d'épanouissement, du moi... non seulement dans le monde non chrétien, non dans le monde profane, je dirais, mais aussi dans le monde chrétien, avec des véritables chrétiens. Une personne dans le temps a compris qu'elle était foutue, qu'elle était morte, c'est comme si elle était déjà morte. Elle se posait, cette personne, le problème de pouvoir être sauvée. Et elle n'avait pas la notion du méritoire, de dire je vais pouvoir faire quelque chose parce que avec ça je vais pouvoir me sauver. N'est-ce pas? On a évoqué Pharaon, et Pharaon avait la foi en sa force, la foi que beaucoup d'États et de politiques d'aujourd'hui ont. Ils sont solides. Ils s'imaginent être solides, et devant Dieu, ils auraient quand même quelques petits arguments à donner. Et ils se disent qu'ils vont y arriver, quelque part, puisqu'ils ont foi en eux-mêmes. Je ne dirais pas que j'ai foi en moi-même, mais je dois parfois me faire violence à ce sujet. Hein. Est-ce que je compte sur des choses méritoires qui viendraient de moi pour que finalement, devant Dieu, je puisse argumenter, dire « Tu sais, Seigneur, tu sais ce que j'ai fait pour toi, etc., ceci, cela. » Vous voyez, hein, ce genre de choses, ça, c'est insidieux, ça rentre dans le cœur, avec cette petite idée quand même que finalement, l'espérance, on y est pour quelque chose. Alors que nous n'y sommes vraiment pour rien. Et c'est ce qui a été évoqué dans nos chants, n'est-ce pas? Tikva. Tikva. Toujours traduit par espérance, sauf à un endroit particulier. C'est Josué chapitre 2 que nous allons lire. Josué chapitre 2, versets 1 à 14. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Shittim deux espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho ». Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays ». Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus ». La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit. Elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrachées sur le toit, arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain. Logiquement, ils se sont dit, on va aller vers l'est, hein, puisque ils ont dû certainement s'enfuir vers l'est, hein, vers le Jourdain. Et il enferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu tout courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Car ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Vous voyez ce verset 13, « Prouvez-moi que vous me dites la vérité. » Parce que en hébreu, au verset 13, il dit « Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, etc. » Le terme hébraïque donne dans le sens ceci, « Prouvez-moi que vous dites la vérité, que vous êtes vraiment dans le vrai. » Et que vous êtes fidèle à la parole que vous allez me donner. Parce que, probablement qu'à Jéricho, ou que dans d'autres cités, on pouvait parler et puis que la parole n'avait aucune crédibilité. En tout cas, cette dame, cette femme prostituée, elle comptait sur la fidélité et la sincérité des espions qui, a priori, ne méritaient aucune... Vous savez, un espion, hein, c'est un espion, hein, je veux dire, il se cache, hein, il essaie de prendre une allure, parfois, comme Mata Hari, changer de sexe, être complètement masqué, quoi. Prouvez-moi. Voilà. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà fait de l'escalade ? Non ? L'escalade, c'est un sport agréable. On prend son temps pour accrocher ses doigts là où il faut, et puis aux excroissances des rochers, hein, et pour les escalader. Oui, mais on risque de tomber. Alors, vous savez, bien sûr, lorsque surtout vous êtes à plusieurs mètres du sol, hein, et donc ceux qui pratiquent l'escalade utilisent un système d'assurance, on appelle ça l'assurance, et ils passent un cordage dans le mousqueton qui est placé sur leur baudrier, ils le mettent au mousqueton, en haut, et du mousqueton, ça redescend jusqu'à un gars qui est en bas, ou une dame, hein, qui tient l'assurance. Et la personne peut monter, et si elle se loupe, elle ne tombe pas à 5-6 mètres en dessous, mais elle reste pendue, et elle, grâce à cette assurance, elle ne perd pas pied. Voilà. Bien sûr, il faut que la personne en bas soit une personne compétente. Sinon, vous chutez de 5-6 mètres et vous pouvez vous tuer. Ce cordage, on lui donne le nom, il s'appelle l'assurance. Nous avons aussi, nous, des compagnies d'assurance qui nous promettent des assurances. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, certains commerçants ont le bec dans l'eau parce que les assurances qu'ils ont eues, on leur a dit, écoutez, vous êtes assuré pour toute situation, même en cas de pandémie, mais pas, par exemple, d'épidémie. Vous savez, il y a toujours des clauses un peu dans les assurances comme ça qui font que, finalement, ces gens se font avoir. Ils sont escroqués. Non, ici, c'est une assurance qui nous permet d'être accrochés à la paroi et de ne pas tomber parce qu'il y a quelque chose qui nous retient. Assurance, ce n'est pas un papier qui est plus ou moins crédible. C'est vraiment une corde bien costaud qui est tenue par un homme compétent ou une femme compétente en bas. Et c'est ce que nous voyons dans les mots de Rahab au verset 13 du chapitre 2. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, etc. Elle sent, elle sait qu'elle ne mérite rien. Elle négocie. Elle négocie pour sa vie. Elle négocie. Dieu ne lui reproche pas cette négociation. Vous imaginez la terreur de cette femme qui avait entendu parler du passage de la mer Rouge. Oui, mais le passage de la mer Rouge, c'était 40 ans avant. Hein. C'était 40 ans avant. Et puis, quelques temps avant, il y a eu 40 ans, il y a eu l'Égypte avec tout ce qui s'est passé, et avec cette certitude que c'était les Égyptiens qui étaient les plus costauds. Et l'histoire a montré que c'était faux. Je vous dis une chose, mes frères et sœurs, est-ce que pour nous c'est la même chose? Est-ce que nous avons la certitude que ce monde est costaud et qu'il pourra nous sauver de quelque chose? C'est la même idéologie. Nous sommes dans une société où, malgré le confinement, ben, il y a eu des efforts qui ont été faits par les gouvernants, et on pourrait placer sa foi, si vous voulez, ou sa confiance dans une structure qui a l'air d'être crédible. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Et pourtant, Rahab a constaté avec beaucoup d'autres, puisqu'il nous a dit que toute la population de ces gens-là, de ces coins-là, était terrorisée parce qu'ils avaient compris que l'Égypte, face au Dieu qui est en haut, et au Dieu qui est en bas. Vous avez remarqué la description de ce que fait Rahab du véritable Dieu. Il est très en haut et il est aussi en bas. Il est immanent c'est-à-dire présent partout, on ne le voit pas, et en même temps, il est transcendant, il est au-dessus de tout. La notion de Rahab, de Dieu, pas de ces dieux à eux, là, de Jéricho, c'est une notion qui ressemble bigrement à notre façon de voir Dieu. Hein? Et donc, il y a 40 ans, il s'est passé quelque chose d'inouï et d'incroyable. L'eau s'est ouverte et puis il y a un peuple qui a été sauvé par grâce. Par grâce, oui. Et il veut là que Sion et Og, roi de Bazan, qui quelques années avant, ont refusé que Moïse et le peuple passent chez eux pour arriver en Israël, enfin arriver au pays de Canaan, ces gens, Og et Sion, étaient des peuples solides, très, très, très solides. Og, il nous est dit hein, dans la parole de Dieu que c'était un homme dont le lit faisait 4 mètres de long sur 2 mètres de large. Le type, rien que le roi, par sa grandeur, laissait supposer que, bon, il n'y avait rien à faire. On ne pouvait pas passer par ce pays-là. Et Moïse, donc, avait demandé aux Amoriens, c'est-à-dire la partie qui est à l'est du Jourdain, qui fait partie, enfin, qui est actuellement en Jordanie, en gros, hein, il avait demandé à ce qu'on puisse passer. Et il avait dit, écoutez, nous paierons l'eau que nous prenons et nous resterons sur la nationale, hein, la voie, la route nationale. Il y avait déjà une route nationale à l'époque. Et donc, ils ont dit, non, il n'y a pas question. Vous ne passez pas. Eux, ils étaient bien certains, même si les Égyptiens avaient été écrasés, ils ne pouvaient pas arguer de cela. Pour dire, vous êtes des gens costauds, on n'a pas peur de vous, nous, on ne veut pas que vous passiez. Et puis voilà que ces gens qui étaient vraiment très solides, très militaires, ont été détruits par le peuple d'Israël à l'époque. Et donc c'est ce qu'elle évoque, Rahab, il y a 40 ans. Les Égyptiens ont été écrasés. Et puis là, il y a quelques années, ou même quelques mois, là, je ne sais pas, hein, vous avez aussi écrasé Sion et Og, roi de Bazan. Tout le peuple, toutes les populations du coin sont terrorisées. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes terrorisés par le jugement de Dieu? C'est quelque chose que nous évoquons de temps en temps, mais qui n'est pas dans l'ambiance actuelle, n'est-ce pas? Il nous est dit qu'à la fin des temps, Dieu va se fâcher. Il va se fâcher et ça va se passer très, très, très mal. Voilà l'ambiance dans laquelle Rahab se trouve. Elle n'a aucune solution pour être sauvée. Il n'a aucune autre solution pour être sauvée que de implorer la faveur de ces deux espions qui ont besoin d'être protégés et qui sont fragiles, semble-t-il. C'est normal d'avoir peur. C'est ce que ressentait Rahab, la prostituée. Est-ce que c'est ce que je ressens, moi, le prostitué? Celui qui se laisse influencer par l'esprit du monde. Est-ce que vous êtes aussi, vous, terrorisé? Est-ce que vous ressentez comme Rahab, la prostituée, votre prostitution, ma prostitution. Je veux, devant le Seigneur, et je vous le confesse, ne pas être prostitué à cet esprit du monde. Et nous sommes toujours avec tant d'influence que ça peut être dangereux pour nous. Mais bien sûr, le Seigneur est avec nous, n'est-ce pas? Elle avait compris autre chose. Josué, chapitre 2, verset 11. On va le relire. Nous avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux. Il est transcendant. Et en bas sur la terre, il est immanent. Il est là et il est en haut et c'est lui qui domine. Verset 11. C'est l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas nos divinités. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut et en bas sur la terre. Est-ce que vous êtes comme Rahab? Est-ce que je suis comme Rahab? Consciente qu'elle ne peut rien faire pour être sauvée des massacres qui vont s'abattre sur tous les Amoréens. Dieu est très poli et très respectueux de l'être humain. Les populations qui sont dans le pays de Canaan, Dieu les connaît et il avait dit à Abraham, donc ça fait déjà un bail, hein, bien avant, hein, bien avant les 400 ans d'Égypte, puisque Abraham était le grand-père de Jacob et que c'est Jacob qui est allé en Égypte. Est-ce que nous sommes comme Rahab? Que faire? Se mettre en règle avec Dieu, avec le vrai Dieu. Elle est prostituée. Elle a conscience qu'elle ne mérite rien. Il n'y a rien de méritoire en elle. Quand je dis ça, je parle de Rahab en pensant à moi et à vous, à chacun. Nous n'avons aucun mérite. Et il faut que je me le rappelle en disant, mais que t'étionnes-tu, fils d'un tel machin? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Nous sommes tous au même niveau, au niveau de la souillure de ce monde qui veut nous souiller encore. Et nous sommes comme Rahab en train de dire, donne-moi l'assurance. Donne-moi cette assurance. Cette corde qui va pouvoir me faire escalader, grimper jusqu'à toi, mais avec aucun mérite, parce que je sais que je suis toujours tenu par ton assurance. Rahab a compris qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, négocier. Il y a des pays où c'est comme ça. Je te donne ça, tu me donnes ça. Hein, voilà, je négocie avec toi. Dieu, je négocie avec toi. Je négocie toi, ton pardon. Je négocie mon pardon. Je ne mérite rien, mais je négocie quand même. Il y a des gens qui disent, oh ben, de toute manière, c'est foutu. Ésaïe, chapitre 22. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Plus rien à faire. Non. Rahab a compris qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Négocier avec les plus puissants. Chapitre 2, verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Seigneur, j'ai aucune autre solution pour me sauver que te demander de l'assurance, que me donner ton assurance. Je ne suis pas méritant. Je n'ai jamais fait d'acte méritoire. Je ne peux pas racheter mon péché. Je ne peux pas faire des messes pour les morts. Je ne peux pas faire des messes pour ma grand-mère ou ceci. Vous voyez, dans des religions. Mais j'accuse pas les catholiques parce que dans toutes les situations et dans tout ce monde terrible dans lequel nous avons envie que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas payer pour gagner. Ils ne peuvent pas payer. Je ne peux pas payer. Donnez-moi l'assurance, donnez-moi la preuve que vous resterez vrai, que votre parole est digne de foi. Parce que ça aussi, il faut y croire. Hein. Parce que, réfléchissons bien, elle a mis une petite corde hein, à sa fenêtre. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça peut exploser, ça peut tomber. Elle a dû certainement faire attention qu'il soit bien accroché. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais... est-ce qu'elle ne s'est pas dit qu'en regardant cette corde, elle n'avait peut-être pas raison de placer sa foi dans ce signal? Elle a peut-être hésité à un moment donné, elle a eu peur, peut-être. Donnez-moi l'assurance, donnez-moi la preuve que vous resterez vrai, que votre parole est digne de foi. Je veux protéger toute ma famille de la catastrophe. Voulons-nous protéger toute la famille des hommes? Des hommes, de la catastrophe. Si nous avons conscience de la catastrophe, nous savons qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est négocier avec Dieu. Négocier. Cette négociation, c'est j'implore ton pardon. Dieu, j'implore ton pardon, je ne veux pas mourir, ni les miens. Un escaladeur, il a une assurance sûre et solide. Il sait que la personne qui est en bas, elle tient. Hein. J'ai déjà vécu l'affaire. Ça fait plaisir de savoir que le gars, d'ailleurs, était plus gros que moi, donc ça allait. Hein. Vous comprenez que c'est vrai, ma légèreté me permettait peut-être d'avoir plus d'assurance. Je ne sais pas, mais bon, bref. Rahab désire une assurance sûre et solide, le verset 13. La réponse du verset 14 est surprenante. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Les deux espions disent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Verset 14, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel vous donnera le pays, nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. C'était pas prévu. Moi, ce que je veux, c'est simplement la vie et tout. Hein. Non, non, non. Tu feras partie de notre peuple. Tu auras droit à notre bonté et à notre fidélité. Boaz est le fils de Rahab et de Salma. Salma, c'est un espion. On ne sait pas. Mais en tout cas, elle est entrée dans le peuple de Dieu, cette Rahab, plus tard, avec bonté et fidélité pour elle. C'est merveilleux. Ça aurait pu être simplement 50-50. Hein. Tu nous as sauvés et puis nous, on te laisse tranquille. Non, non. Bonté et fidélité. Dieu nous a donné une réponse aussi. Il a dit, je meurs pour vous. Et je vous serai toujours fidèle. Dieu a dit ça aussi. Il y a un grand parallèle. Si tu ne me renies pas. Vous connaissez 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Ce qui est extraordinaire. Si nous persévérons, nous ne serons pas mis de côté, nous régnerons avec lui. Avec Dieu, avec Jésus. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ce n'est pas possible de le renier. C'est quand même noté, hein, dans le verset 12 de 2 Timothée 2. Et le verset 13, si nous sommes infidèles, ce qu'il peut y avoir de temps en temps, comme Rahab, est-ce que cette petite corde-là, est-ce que je peux vraiment compter sur cette petite corde? Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors que font ces deux espions? Ils lui donnent une ferme assurance, sur laquelle elle peut s'accrocher. Et quelle est cette assurance? Tikva. Alors dans l'hébreu, il y a certains qui ont traduit que c'était une petite corde en rouge, et qu'elle n'était pas une corde d'escalade. Certains autres disent non, non, non. On a l'impression que c'est quand même plutôt la corde par laquelle Rahab les a fait descendre, que c'était une corde costaud. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser cela. En fonction des mots hébraïques, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, hein, que cette corde qui est restée pendue, c'était la corde avec laquelle ils sont descendus, qu'ils ont été et avec laquelle ils ont pu toucher le sol en bas, hein, puisque la maison était sur la muraille, et que de là, ils ont pu aller dans la montagne à l'ouest. Alors, j'en ai déjà parlé. Ils sont partis à l'ouest. Comme ça, tous ceux de Jéricho qui cherchaient après eux partaient vers l'est, ces gens-là. Ils s'imaginaient que c'était idiot de partir vers l'ouest. Hein. Pourtant, Rahab leur a dit non, allez dans les montagnes à l'ouest et attendez que ces gens reviennent 3 jours. Et 3 nuits. Et au bout des 3 jours et 3 nuits, ils sont revenus, les Jérichoziens, je ne sais pas comment on dit, les gens de Jéricho. Et puis, pendant ce temps-là, ils sont partis. Ils sont retournés dans le camp d'Israël. Cette assurance, nous la possédons comme une encre de l'âme qui est sûre et solide et qui pénètre au-delà du voile. de la chair du Seigneur, de sa mort. Hein? Alors, c'est ce qui nous est dit. Donc, on va prendre dans Hébreux. J'espère que je ne suis pas trop long. Voilà. Dans Hébreux. On a l'impression que c'est Rahab qui a parlé en hébreu. Bon, c'est vrai qu'elle est devenue hébraïque, hein, Rahab. Elle a même été une des aïeules du Seigneur Jésus-Christ, vous le savez. Hébreux, chapitre 6, versets 17, 18, 19, 20. Hébreux, chapitre 6, versets 18, 19 et 20, que nous allons lire dans l'esprit de Rahab, avec la notion de crucial, de danger imminent, vous voyez. Nous sommes dans le danger imminent, même aussi pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que nous voyons dans ce chapitre 6, versets 17, 18, 19 et 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité ou l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Là, vous voyez l'ambiance de Rahab, ce que j'ai eu raison de faire confiance à ces deux espions. Les deux espions ont fait aussi confiance à Rahab. Quand Rahab les a cachés, quand ils sont partis dans la montagne, pourquoi n'aurait-elle pas dit, ouais, vous savez, les deux espions, finalement, je les ai cachés dans la montagne là-bas, d'autre côté. Donc vous pouvez aller les choper. Non. Elle est restée aussi fidèle. Il est impossible que Dieu mente, verset 15, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont, c'est ça, l'esprit de Rahab, la mentalité de Rahab, c'est ce que nous voyons ici. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ah, toi tu es un chrétien depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 120 ans. Tu peux compter sur ta spiritualité pour que Dieu te donne quelque chose de plus qu'un autre. Non, non. Non, non. Non. Le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Excusez-moi, mes frères et sœurs, c'est vrai que je vous dis des choses que vous savez. J'ai rien dit de spécial. Mais j'avais envie de le dire parce que je me dis, on en a besoin. Pour essayer de nettoyer un peu notre esprit de ces tendances méritoires qui peuvent venir nous titiller, nous dire, oh, tu sais, tiens quand même, tu sais, un tel, hein, tu es quand même bien. Le Seigneur va regarder ce que tu as fait. Hein? Le Seigneur a dit, quand vous aurez tout fait, comme je vous l'ai dit, dites, nous sommes des serviteurs. Hein? Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Vous voyez, il y a une corde. Je suppose qu'entre l'ancre de l'âme qui est accrochée dans les cieux et nous, il y a une grosse corde bien rouge, hein, entre les deux. Une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, tout seul, en restant tout seul, et en disant « je serai tout seul pendant l'éternité », non, non, comme précurseur, c'est-à-dire, nous, on va monter sur la corde, et on va être avec lui. C'est extraordinaire. Rahab n'avait pas demandé à ce qu'on ait de la bonté et de la fidélité pour elle. Elle voulait juste simplement être vivante, c'est tout. Et nous, c'est la même chose. Le Seigneur aurait pu nous sauver. Et puis se dire, bon, je vous mets dans une case, là, quelque part, dans un box, je ne sais pas où, non, non, non. Là où Jésus est entré comme précurseur, ayant été souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizédek, le roi de justice. Alors, verset 18 de Josué chapitre 2, il dit, attache ce cordon de fil cramoisi écarlate à ta fenêtre. Oh, c'est pas la peine. Écoutez, c'est dérisoire. Pourquoi? Vous savez très bien où j'habite. Oh, C'est pas nécessaire que je mette une corde. Les espions ont dit attache une corde rouge. Cette corde, probablement cette corde qui nous a permis d'être libérés, hein, nous, toi tu l'attaches. Tu discutes pas. C'est comme ça. Bon, il n'a pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça, les espions, mais vous comprenez que nous, on pourrait discuter. Ouais. Bon. Non. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alors, tigva. Hein, répétez après moi. Tigva. Eh bien, c'est l'espérance qui nous a été proposée et qui nous permet, dans ces temps qui ont été évoqués comme étant des temps difficiles, de dire, un peu comme pour Ahab qui était dans un temps difficile, ben que on a une assurance. Hein. Puis si on peut accrocher la corde au mousqueton, on peut encore escalader. Hein, parce qu'il y a quelqu'un de solide, compétent, qui est là pour nous tenir. Je terminerai par la prière, mes frères et sœurs. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ta parole est étonnante. Ce terme tikva a toujours été traduit par espérance dans la Bible, sauf dans Josué chapitre 2. Et peut-être que c'est une mauvaise traduction, je ne sais pas, Seigneur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la seule espérance pour nous, c'est d'avoir saisi notre seul refuge, c'est d'avoir saisi l'espérance qui nous était proposée. Et en ces temps difficiles, en ces temps de détresse pour le monde, nous voulons tellement que le monde puisse aussi s'accrocher à cette corde, à cette assurance que tu nous as donnée par ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen.